Ernest et Hannibal sont malades mentaux, ils résident dans un hôpital psychiatrique. Un jour, Ernest longe la piscine, il tombe dans l'eau et coule à pic. Ni une ni deux, Hannibal saute dans l'eau et va chercher Ernest au fond. Il le ramène à la surface. Quand le directeur apprend l'acte héroïque de Hannibal, il décide de le laisser sortir immédiatement car il pense que Hannibal a recouvré toutes ses capacités intellectuelles. Alors il le convoque dans son bureau, il va lui-même lui annoncer cette bonne nouvelle et lui dit « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, Hannibal. » Hannibal écoute attentivement. « Voilà. La bonne, c'est que nous te laissons sortir de l'hôpital parce que tu as été capable d'accomplir un acte de bravoure en sauvant la vie d'une autre personne. Je crois que tu as retrouvé ton équilibre mental. La mauvaise, c'est que Ernest s'est pendu dans la buanderie avec la ceinture de sa robe de chambre. » Et Hannibal répond au directeur, « Il ne s'est pas pendu, c'est moi qui l'ai accroché pour qu'il sèche. » Voilà, ça c'est l'histoire de deux fous. Et bien souvent, je ne sais pas si ça vous est souvent arrivé, mais à moi ça, en tout cas ça m'est arrivé, parce que je suis chrétien, on me prend pour un fou. Et là vous vous dites, « Oui, mais bon, je ne vais pas aller pendre mon copain que j'ai sauvé de la noyade. » Gloire à Dieu. Surtout ne le faites pas. Mais pour étoffer un peu mon histoire, je vais prendre un passage dans la Bible où il ne s'agit pas de deux fous, mais il s'agit de trois fous. Trois fous. Vous allez dire, il y a trois fous dans la Bible. Oui, il y a trois fous dans la Bible. Bon, il y en a plus que ça. Hein. Il y en a plus que ça. Parce que aller tuer un ours avec une fronde, bon, faut être bien atteint quand même. Hein. Je veux dire, dans la foi. Pas dans la folie, dans la foi. Mais là, c'est une histoire un peu plus dingue. Et je vais demander, parce que la lecture est un peu longue, si vous n'entendez que ma voix, vous allez finir par vous endormir. Vous n'entendez que ma voix, vous dormez. Je vais demander à quelqu'un de lire. Qui veut lire? Je vais passer la sucette. Hop. Qui veut lire? Il n'y a que 13 versets. Donc c'est dans Daniel 3, les versets 1 à 13. Qui veut lire ça? Personne? Ah, eh bien voilà. Tiens. On va projeter comme ça, on va lire tous la même version. T'embête pas à prendre là, ça va être écrit là. Ça va? Comme ça, on a tous la même version.
Daniel 3, versets 1 à 13. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors, les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. » Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. » et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amenât Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi.
Merci, merci, merci. La suite, je vous l'épargne, nous la connaissons. Et si vous ne la connaissez pas, je vais vous la rappeler rapidement. Le roi va leur donner une nouvelle chance de se prosterner devant la statue. Ils vont refuser, alors ils vont être jetés dans une fournaise ardente. Un gros feu, feu tellement balèze que même ceux qui les jettent dedans brûlent sur place. Et puis finalement, ben, c'est là qu'il va se passer un miracle. Ils ne seront pas trois dans la fournaise, mais quatre, parce que l'ange de l'Éternel va les accompagner. Il va non seulement consumer leurs liens, mais eux vont ressortir de là, parce que le roi va être étonné, vont ressortir de là sans la moindre égratignure, sans que le feu n'ait touché à quoi que ce soit, ni même leurs habits. C'est fascinant. C'est incroyable. Moi, je trouve ça dingue. C'est une histoire qu'on aime bien. Vous aimez bien cette histoire? C'est vraiment une belle histoire. Et pourquoi on l'aime? Parce qu'elle est fascinante. Elle est fabuleuse. Imaginez un instant. Vous faites un barbecue. Vous prenez une saucisse. Déjà, ça sent le cramé, les poils. Hein, ça sent le cochon, en général. Et si ça ne sent pas le cochon, ben vous-même, vous êtes brûlé. C'est pas une fournaise ardente, c'est un barbecue. Et si vous prenez une saucisse sans couvert, vous vous brûlez, non? Ça vous est jamais arrivé de prendre une saucisse sans couvert? Bon, moi non, parce que je suis pas fou, hein, je prends des couverts. Bah si, ça m'est arrivé, c'est chaud, ça brûle les doigts. Et ben là, ils sont dans une fournaise. Mais c'est incroyable comme histoire, c'est vraiment une belle histoire. Moi, j'aime cette histoire. Mais je me pose quand même une question. Parce que, en plus, l'ange de l'Éternel qui les rejoint. C'est incroyable. Mais je me pose une question. Est-ce que ça ne vous interpelle pas, vous, de savoir déjà qu'est-ce qui a poussé ces hommes à en arriver là? La raison pour laquelle ils sont jetés au feu, on l'a vu dans le verset 12. On nous dit combien ces hommes sont différents des autres. Ils sont juifs. Ils sont juifs. Ils servent l'Éternel. Ils ne sont pas comme tous les autres qui sont autour d'eux. Et autour d'eux, il y a des gens de toute nation. On dit les gens de toute nation, de toute langue. C'est-à-dire que l'ordre du roi a été traduit dans toutes les langues pour que tout le monde le connaisse. Tout le monde, tous les gens qui étaient autour, qui travaillaient autour de ce grand roi, parce que Nebuchadnezzar, ce n'était pas un petit roi. Ce n'était pas un président de la République française. Ce n'était pas un rigolo. C'était un grand roi. Vous comprenez ça? C'était pas n'importe qui. C'est pas la reine d'Angleterre, quoi. On l'aime bien, mais Nebuchadnezzar, quand même. Il avait les moyens de se faire une statue d'or. La reine d'Angleterre, elle a pas de statue d'or. Ah, on sait pas. Mais pas une grande. Pas une grande. Mais eux sont différents. Et la différence amène la méfiance. Nous sommes chrétiens, je pense que vous savez de quoi je parle. Parce qu'on est chrétien, on est différent. Alors on nous regarde différemment. Ah ouais, toi tu fais pas ceci, ah ouais, toi tu fais pas cela. Ah ouais, toi tu n'as pas le droit de faire ça. Vous avez jamais entendu ça? Si, hein. Vous avez déjà entendu? Ben moi aussi. Donc vous l'avez tous entendu. On est différent et à l'occasion, donc quand on s'intéresse à nous, ce n'est pas pour savoir ce à quoi on a le droit, c'est pour savoir ce à quoi on n'a pas le droit. Alors la Bible est claire, hein, rien n'est interdit, mais tout n'est pas utile. Moi j'ai droit à tout. Simplement, je me protège parce que je veux plaire à mon Dieu. Amen. Alors ils sont tellement différents que non seulement ils ont attiré la méfiance, mais ils ont même attiré l'antipathie. Ils sont différents de ces Babyloniens idolâtres. Ils sont différents. Et on doit accepter cette différence. Leur différence surtout, c'est leur Dieu. Ils n'en ont pas 36, ils n'en ont qu'un. Ils n'en ont qu'un et c'est un Dieu jaloux. Et ce Dieu, il a déjà fait la différence pour eux. Tant et si bien que le roi Nebuchadnezzar ne les a pas choisis par hasard. Il les a choisis parce que c'était les potes de Daniel. Vous connaissez Daniel? Si vous ne connaissez pas l'histoire de Daniel, je vous invite vraiment à lire ce livre. C'est même waouh. Daniel, c'est waouh. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire waouh, ben lisez Daniel. Voilà. Donc Daniel, c'est waouh. Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire waouh, lisez Daniel. Voilà, tout simplement. Et on voit la puissance de Dieu. Imaginez Daniel, ce gars-là. Il va voir le roi pour lui raconter, lui rappeler un rêve que lui n'a pas vécu, que le roi a vécu, mais que le roi a oublié. Il va, il rappelle le rêve, et le roi dit « Ah oui, c'est ce rêve-là que j'ai fait, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et bien Daniel lui explique. Ça va un peu loin quand même, non ? Hein ? Faut être balèze, quoi. Daniel, c'est un homme comme ça. Eh bien, ses potes, Shadrach, Meshach et Abednego, j'ai oublié leur nom juif, mais ses potes, ils ont attiré sur eux l'admiration du roi. Parce qu'ils sont différents, ils sont intègres, ils sont justes, ils sont droits. C'est des hommes sur qui le roi peut compter. Et moi, j'espère que autour de vous, les gens disent « Ouais, ok, il est chrétien, il est un peu louche, je suis un peu méfiant, mais au moins je peux compter sur lui. » J'espère que les gens pensent ça de vous. Que sur toi, que sur moi, on peut compter. Et ça, c'est important. Parce que oui, quand je travaillais à la banque, les gens disaient « Ouais, Fred, c'est un chrétien, c'est un louche. Mais quand ils avaient un problème, « Fred, est-ce que tu peux prier pour moi ?» Ils venaient quand même me voir. Ils me demandaient de prier pour eux. Ça vous est jamais arrivé, ça ? Bah si. Il y a même des gens à qui on parle et finalement, ils vous disent « Moi, je suis un ancien gendarme. Hein ?» Alors, c'est pour ça que le roi les aime bien. Dieu fait la différence en eux. Alors, eux, dans toute cette masse d'idolâtres, dans tout ce monde babylonien, dans toute ce marasme de population, puisqu'il y a des gens de toute langue, de toute nation, eh bien là, maintenant, ils sont juste trois. Waouh, faut supporter, hein. Juste trois. Seulement trois parmi un peuple nombreux. Alors forcément, comme ils sont un peu les chouchous du roi, ils sont les détestés des autres. Tant et si bien qu'on va chercher la faille. On cherche la faille. Ils sont étrangers et ce sont des gens qui ne sont pas fréquentables. À la moindre occasion, on va aller les balancer au roi. Et vous l'avez lu. Et nous sommes tous un peu des Shadrach, Meshach et Abednego. Nous sommes différents dans un monde compromis et on a le même Dieu qu'eux. Amen. Est-ce que vous avez conscience que vous avez le même Dieu qu'eux? Bon, y a Rudy qui le sait parce que lui, il a dit Amen. Vous avez dit Est-ce que vous êtes conscient que vous avez le même Dieu qu'eux? Amen. Voilà, c'est ça que j'entends. C'est un vrai Amen, pas un ça veut dire ouais, Fred, ouais. Amen, ça veut dire je suis d'accord. Et Rudy est en train de dire, ouais, moi je cherche le même Dieu qu'eux, celui qui va me tirer aussi de la fournaise. C'est ça que me dit Rudy. Alors en tant que chrétien, nous avons des valeurs que ce monde ne peut pas comprendre. Oui, moi je peux vous en parler plein. Hein. Parler de la dîme, les gens vont dire, oh, c'est une secte. T'es obligé de donner. Et tu dois donner ta fiche de paye. Vous n'avez jamais eu cette question, vous ? Ah, moi j'ai déjà eu. Hein. Ah, c'est vrai que dans ton église, il faut donner la fiche de paye ? Non. non. Et c'est vrai que dans ton église, on se marie pas, on couche pas avant le mariage ? Ouais. Ouais. C'est pas que dans mon église, hein, c'est la parole de Dieu qui me le conseille, qui m'y encourage, qui me le demande. Mais jamais mon pasteur est venu me voir en disant « Alors ? Bon, maintenant je suis marié, donc je fais ce que je veux. » Mais en tant que chrétien, on a d'autres valeurs que ce monde ne peut pas comprendre. Nous tâchons d'être honnêtes. Évitons de nous souiller, nous voulons vivre selon les paroles, les valeurs bibliques du pardon et de l'amour. Et là, ça c'est la vérité. Le monde nous prend pour des martiens et le monde ne nous aime pas. N'allez pas croire que le monde nous aime. Jésus dit « le monde m'a détesté », mais il vous déteste aussi. Amen. C'est pas Fred qui vous l'apprend, c'est pas une découverte j'espère pour vous. Le monde a détesté Jésus, il déteste les chrétiens. C'est comme ça. Et soyez pas surpris. Ne vous mettez pas dans la position de Caliméro, c'est vraiment trop injuste. C'est comme ça depuis des années, on n'est pas meilleur que notre maître. Donc le monde ne nous aide même pas, et en plus il ne va pas hésiter à essayer de nous faire tomber, à nous entraîner dans sa chute. Il ne va jamais hésiter, le monde. Alors, j'ai même pu constater que dans le monde dans lequel on vit, nous les chrétiens, on a parfois plus de difficultés à obtenir des droits que tout le monde a droit, parce qu'on est honnête, on veut marcher dans la vérité. Alors comme on ne ment pas comme eux, eh bien, pour nous, c'est un peu plus difficile, quoi. Eux, ils mentent, ils trichent, ce n'est pas un problème. Quand je travaillais dans la banque, je m'occupais des dossiers de crédit. Vous devriez voir tous les documents falsifiés que je recevais. Mais c'est hallucinant, quoi. Alors, ils nous prennent pour des imbéciles parce qu'on a un œil aiguisé pour trouver les documents falsifiés. En fait, comment on découvre un document falsifié? C'est uniquement en connaissant les vrais. On n'apprend pas à détecter les faux billets, on apprend à reconnaître les vrais. C'est comme ça. Et donc, quand on a un faux, on dit, tiens, c'est pas comme un vrai. Voilà. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Alors, on peut me présenter tout ce qu'on veut à côté, c'est pas la vraie. Il n'y a que la parole de Dieu qui m'intéresse. Amen. C'est en connaissant la parole de Dieu qu'on connaît la vérité. Quand nous pardonnons, on nous prend pour des faibles. Quand nous aimons, au lieu de haïr, on nous prend pour des lâches ou des hypocrites. Nous sommes des Shadrach, Meshach et Abednego. Mais ce n'est pas ça qui a envoyé nos amis dans la fournaise. Ils ont refusé d'adorer une statue. C'est ça qui les a envoyés dans la fournaise. Autrement dit, ils ont refusé de désobéir à Dieu. Mais franchement, entre nous, entre vous et moi, ça ne sortira pas d'ici. C'était pas plus simple de désobéir à Dieu? Bien sûr que si. Allons, mais alors oui, on a un Dieu jaloux, mais là, c'est une question de vie ou de mort. Le roi, on sait que le roi, c'est pas un rigolo. On sait que le roi, il a dit, celui qui va pas le faire, on va le jeter dans la fournaise. Immédiatement. Alors, non seulement ils le font pas, mais en plus, ils poussent le bouchon un peu loin, parce que le roi, il va leur donner une deuxième chance. Déjà, il montre une faiblesse. Le roi Nebuchadnezzar est faible devant Shadrach, Meshach et Abednego. Parce qu'il les aime tellement qu'il n'a pas envie de les jeter dans la fournaise. Alors il va leur donner une deuxième chance. Ce qui n'est pas prévu dans le contrat initial. Dans le contrat de base, tu n'obéis pas au feu. C'est ce qui est écrit, vous avez lu avec moi. Hein. Là, il leur donne une deuxième chance. Quelle faiblesse! Et ils arrivent devant lui. Alors imaginez, vous êtes des Babyloniens. C'est pour l'exemple, hein. Pas des Babyloniens. Je suis Nebuchadnezzar. C'est pour l'exemple. Alors, je vais dire à Fred. Viens, Fred. Bon, Fred. Shadrach, Meshach, Abednego, on va pas faire les rigolos. Il y a du monde. Je vais me claquer la honte si tu m'obéis pas. Tu te prosternes devant ma statue. Et lui dit non. Et là, qu'est-ce que vous faites? Là, vous dites... Et là vous dites quoi? Vous dites la honte, le roi, quoi. Si le roi il fait pas ce qu'il a dit, mais c'est la honte devant tout le peuple. Il est obligé de les jeter. Touche pas à ça. C'est pas à toi. Je suis obligé de le jeter dans le feu. Non? Si je le fais pas, mais vous allez dire t'es une lopette. T'es pas un roi finalement, c'est eux les rois, c'est pas toi. Non mais c'est vrai. Si le roi ne fait pas ce qu'il a dit, qui est le roi? Celui qui a refusé de s'y soumettre? Ah ben voilà, tu peux t'asseoir, Fred. Merci. Vous voyez qu'il m'obéit, hein? Non, je rigole. Donc, le problème, c'est ça, c'est qu'ils ont refusé de s'y soumettre et le roi était pris à son propre piège. Mais c'était plus simple de se soumettre parce que nous, chrétiens, nous le savons bien, Dieu pardonne. C'était plus simple de me prosterner devant la statue du roi, le cœur déchiré, même en priant, « Seigneur, je te demande pardon de ce que je suis en train de faire, parce que c'est inadmissible, mais je le fais parce que sinon on va me tuer. C'est du suicide. » Et eux, ils disent non. Moi, je me serais agenouillé, après je serais rentré dans ma chambre, j'aurais jeûné pendant 15 jours, j'aurais pleuré devant ma honte. Mais j'aurais pas pris le risque de mourir. Et puis attendez, mais j'ai quand même une femme et quatre enfants. Alors, dans le pire des cas, le roi décide de ne pas me jeter dans le feu. Ok, je peux vivre. Mais je suis un intendant du roi. J'ai une position quand même dans cette société. C'est lui qui me paye. C'est grâce à lui que je peux vivre. C'est grâce à lui que je vis même bien. Je suis un intendant. Je suis pas comme un mendiant à la porte de la ville. Je suis quand même bien vu. Je suis un intendant. Quand je marche dans les rues, les gens me respectent. Pourquoi ? Parce que je travaille pour lui. Alors, c'était plus simple de m'agenouiller parce que je risque même... Dans le pire des cas, il ne me jette pas au feu, mais il me coupe les vivres. Comment je vais vivre ma famille ? Comment je vais faire ? C'était plus simple de se soumettre, non ? C'était beaucoup plus simple. Et dans notre vie, eh bien, parfois, c'est plus simple de se soumettre à ce monde qui nous tente, qui nous pousse dans nos retranchements. Parce qu'on a un Dieu qui pardonne. Alors oui, on a un Dieu qui pardonne. Mais Dieu leur avait donné un commandement auquel ils ont décidé de ne pas désobéir. C'est le deuxième commandement. Tu ne t'agenouilleras pas devant une idole. Juste le deuxième. Juste le deuxième. Franchement, heureusement que je n'étais pas Shadrach, Meshach et Abednego. Je ne peux pas dire ce que j'aurais fait. Peut-être que porté par le zèle de mes copains, je me serais rebellé. Mais si j'avais été le leader... Peut-être qu'ils se seraient tous agenouillés avec moi. C'est une situation difficile. On risque, quand on ne se soumet pas à ce monde, on risque notre réputation. On risque nos amitiés. On risque parfois nos relations. On risque parfois notre travail. Quand on ne se soumet pas à ce monde... Oui, on prend des risques. On peut tout perdre. Parce qu'on est dans un monde qui va de pire en pire. Et n'allez pas croire que c'est pire aujourd'hui qu'à l'époque. À l'époque, c'était juste un roi. Aujourd'hui, c'est toute la société qui vous pousse dans vos retranchements. Parce que être chrétien aujourd'hui, eh bien, c'est vivre dans un monde qui rejette totalement Dieu. Alors, sommes-nous aussi déterminés dans notre foi aujourd'hui ? Ne sommes-nous pas hyper influençables ? Enlevons hyper, ne sommes-nous pas influençables ? Juste un petit peu influençables. Au travail, dans les magasins, dans notre quartier, au collège, dans nos loisirs, face à nos ordinateurs, face à la télé. Alors 1 Corinthiens 10, 23 nous dit ceci, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Le monde nous sollicite de toutes parts. Mais comment lui répondons-nous ? Un peu de compromis, après tout, Dieu pardonne. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est Romains 5, 20 qui nous dit ça. Alors ce verset, vous savez, le diable ne va jamais hésiter à vous le rappeler. Autant Dieu vous le rappelle parce que lui, Dieu ne veut pas que vous culpabilisiez, autant Dieu ne veut pas que vous soyez dans cette culpabilité qui va vous tirer vers le bas. Mais ce verset devrait vous interpeller que quand vous avez péché, pas avant. Ce verset doit vous rappeler combien Dieu vous aime et combien il est là pour vous ôter de cette boue dans laquelle vous étiez. Mais ce verset, le diable nous le rappelle avant de pécher. Bon, vas-y, tu peux y aller. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Crac ! Dieu va te pardonner, il est tellement faible, Dieu. Dieu, c'est même pas Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il n'a pas de faiblesse, il va te jeter dans la fournaise. Mais Dieu va te rappeler qu'il te pardonne. Dieu est faible. Dieu est faible ? Dieu n'est pas faible. Dieu est bien plus fort que le roi Nebuchadnezzar. Dieu est bien plus puissant que Satan. Amen ? Alors, refusez la culpabilité, c'est un fait. N'acceptez jamais la culpabilité. Repentez-vous. Demandez pardon à Dieu, mais surtout, fuyez le péché. Non au compromis. Le compromis et nos petits arrangements pour ne pas déplaire au monde mais nous donnent des avantages humains. Mais notre soumission au commandement de Dieu nous ouvre une voie vers le surnaturel, vers l'incroyable, vers l'invulnérabilité. On va prendre ensemble 2 Chroniques 20:20 Et ça, c'est un passage qui me parle à chaque fois que je lis. Et Dieu me le rappelle souvent. Je l'ai pris exprès dans la version Summer. On va prendre à partir de « Écoutez-moi, homme de Juda et habitant de Jérusalem. Faites confiance à votre Dieu et vous serez invulnérables. » Waouh, ça me... Faites confiance à votre Dieu et vous serez invulnérables. Faites confiance à ses prophètes et vous aurez la victoire. Moi, c'est ça qui me touche, c'est de me dire que si je fais confiance à mon Dieu, je serai invulnérable. Et ici, Shadrach, Meshach et Abednego, ils devaient vraiment connaître cette histoire par cœur. Ils devaient l'avoir sur leur cœur quand ils ont refusé de se soumettre au roi. Parce que j'ai cette impression, et Dieu m'a interpellé, vous savez, je suis souvent en train de prier ces derniers temps pour dire à Dieu, il nous manque la puissance. Alors oui, on a la grâce, on a le salut, on a le message de la bonne nouvelle de l'évangile, on a une église, on a le privilège de pouvoir se retrouver, on a une louange forte, on a des cœurs d'adorateurs, gloire à Dieu pour tout ça, mais il nous manque la puissance. Et je pleure parfois devant Dieu, quand je passe des temps à jeûner, j'oublie jamais de dire à Dieu, j'ai besoin de la puissance. Et Dieu m'interpellait quand je préparais ce passage, parce qu'il me disait, si vous manquez de puissance, c'est parce qu'il y a aussi des compromis dans votre vie. Il y a des compromis dans votre vie. Certes, nous sommes pardonnés. Bien sûr, quand on demande pardon à Dieu, il nous pardonne. Mais qu'est-ce qu'on veut ? On veut juste être pardonné ou on veut en plus la puissance ? Vous voulez la puissance ? Vous voulez juste le pardon. Le pardon, c'est bien, gloire à Dieu pour le pardon. Mais si on veut le servir, on a besoin de la puissance. Comment peut-on servir Dieu en arrivant toujours devant les gens ? Oui, tu sais, je suis qu'un pécheur, pardonné, viens avec moi. Viens, Dieu te pardonnera aussi et nous vivrons une vie de piété, toi et moi. Le monde n'en a plus rien à faire de ça. Le monde aujourd'hui veut voir la gloire de Dieu. Mais si quand j'arrive en pleurant, est-ce que je suis la gloire de Dieu ? C'est quand j'arrive avec des assurances que je suis la gloire de Dieu. C'est quand j'arrive et que Dieu accomplit des signes, des miracles et des prodiges que je vois la gloire de Dieu. Alors, bien sûr, vous savez, merci, vous savez, vous et moi, que déjà être pardonné, être racheté, c'est la gloire de Dieu. Vous le savez ! Mais le monde s'en moque, il ne sait pas, il ne comprend pas ça. Le monde a besoin de voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Il a besoin de voir que nous avons une autorité sur nos vies. Alors, être Shadrach, Meshach et Abednego, eh bien, on va se souvenir de leur histoire. Ils n'ont pas regardé à ce qu'ils allaient perdre. Ils n'ont pas regardé à ce qu'ils allaient perdre. Ils n'ont pas regardé à leur position. Ils n'ont pas regardé à leur situation. Ils n'ont pas regardé au ridicule qui allait être sur eux. On ne nous parle pas de leur famille. Ça se trouve, ils n'en avaient pas, mais ça se trouve, ils en avaient une. Moi, j'imagine si j'avais eu mes enfants derrière en train de hurler « Papa, agenouille-toi !» Mais je me serais agenouillé. Mais eux, on ne nous parle pas de tout ça. Simplement, on nous parle de leur position de cœur devant Dieu. J'ai décidé d'obéir à mon Dieu uniquement. Uniquement. Mon Dieu m'a demandé quelque chose. C'est à lui que j'ai décidé d'obéir. Et peu importe ce que les autres vous me feront. Alors, il défie Nebuchadnezzar. Mais finalement, il ne le défie pas. Ce n'est pas lui qui défie. C'est Dieu qui le met au défi. C'est Dieu qui le met au défi. En disant, OK, Seigneur, tu m'as demandé de ne pas m'agenouiller devant une idole. Je vais t'obéir. Mais ce qui m'arrive, ce n'est pas mon problème, c'est le tien. Ok Seigneur, j'ai décidé de ne pas me faire profil bas devant mes amis dans la rue, devant mes collègues au travail, devant mes camarades au collège. Mais c'est toi qui vas justifier mon attitude. Amen. J'ai décidé de ne pas me soumettre à un ordre de mon patron parce qu'il me demandait de voler ou d'être malhonnête. Mais Dieu, c'est toi qui vas justifier mon attitude. Amen. Shadrach, Meshach et Abednego, eh bien on va voir leur histoire parce que ce qui est fascinant, c'est que non seulement ils ne sont pas morts dans la fournaise, vous le savez ça, mais en plus, imaginez un instant, ils ont eu la grâce de voir l'ange de l'Éternel venir les secourir. C'est pas fabuleux ça ? Ça a dû les encourager, mais alors d'une force. Imaginez, on se retrouve à trois dans une fournaise, puis finalement on est quatre, et le gars il nous parle, il dit « vous craignez rien, le feu c'est rien du tout. D'abord il va juste consumer vos liens, puis le reste c'est bon. » Et alors, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous louez l'Éternel, hein. On chante, on danse, c'est ce qu'il faisait. Allez, on sort les tambourins, ben non, les tambourins ça brûle. Mais ils ont fait la fête, ils chantaient, ils ont mis le feu quoi. Ils ont mis le feu. Et tous ceux qui étaient autour étaient comme ça. Le roi était comme ça. Et le roi a pu dire qu'une seule chose. Ben, faites-les sortir, on est ridicule là. Là, on a l'air bête. Les gars qui les ont jetés dedans, ils sont brûlés vifs, mais eux, ils dansent. Bon, sortez-les de là. Ben, déjà, c'est dingue. Vous êtes d'accord, c'est dingue. Mais c'est pas tout. On va voir la suite. On va prendre Daniel 3, les versets 29 et 30. Et c'est là que l'incroyable se produit. Bien sûr, la fournaise, c'est chouette. Mais regardez ce qui se passe. Voici maintenant l'ordre que je donne. Pas moi, Nebuchadnezzar, le roi. Voici l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, les rois firent prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Waouh ! Vous voyez que c'est ouah ce bouquin. Hein ? Non seulement Dieu les a sortis de la fournaise, ça aurait pu être bon, ça aurait pu se terminer là. Ça aurait pu arrêter là. On aurait pu dire, bon, ok, Dieu les a sauvés, gloire à Dieu, bravo, c'est super. N'empêche que la persécution, elle est encore là. Non, la persécution, elle n'est plus là. Ils ont refusé de se soumettre. Ils ont refusé de souiller leur âme. Et non seulement Dieu les a sauvés de la fournaise, mais en plus, il leur a donné une situation bien meilleure. C'est pas formidable, ça? Bien souvent, dans notre situation personnelle, on va raisonner au premier abord. Ah, si je ne fais pas ce que mon patron m'a dit, il va me virer. Si je ne fais pas ce que mon patron m'a dit, j'ai perdu mon boulot. Si je perds mon boulot, ben je me retrouve au chômage. Pour trouver un autre travail, ça va être compliqué. Et puis ma femme, mes enfants, et puis ma voiture, et puis ma maison, et puis. Si dans mon quartier, je ne vais pas moi aussi faire un peu le loubard, si je me montre faible, ben je vais perdre mes copains. Et puis je vais perdre mes copains, alors je vais perdre ma situation, je vais perdre ma réputation, et puis. Si dans mon école, je ne suis pas un peu le meneur de ceux qui n'étudient pas, je vais passer pour l'intello de service, on va bientôt m'acheter une paire de lunettes, et puis. Mais si jamais je fais ce que Dieu me demande, non seulement Dieu va me tirer des mauvais pas, mais en plus il va se glorifier dans ma vie. Amen. Est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle, mes amis? Est-ce qu'on est obligé de regarder à court terme? Voilà, si je ne fais pas ça, demain, je n'ai plus rien. Mais Dieu t'invite à regarder à long terme. Parce que Dieu connaît ton avenir. Car je connais les projets que j'ai formulés sur ta vie. Amen. Et si tu traverses une épreuve, Dieu n'est pas là pour te dire, voilà, maintenant c'est la fin, c'est la mort, tu vas mourir comme ça. Dieu est là pour te dire, je suis avec toi. Je suis avec toi dans cette épreuve. Et non seulement je vais te tirer de cette épreuve, mais en plus, tu vas en retirer de la gloire personnelle. C'est ça que Dieu te dit. N'accepte pas de plier le genou devant l'adversaire. N'accepte pas de te soumettre aux ruses du diable. Mais reconnais que moi, non seulement je peux te tirer de ce mauvais pas, mais en plus, je vais me glorifier davantage. Parce qu'avec Dieu, c'est toujours plus. Dieu veut plus pour ta vie. Amen. Est-ce que vous avez conscience que Dieu veut plus pour votre vie? Est-ce que vous avez conscience que Dieu ne veut pas que vous soyez juste des sauvés? Dieu veut que vous soyez des puissants. Amen. Parce que nous avons un monde à changer. Parce que nous avons un monde à corriger. J'ai bien aimé, la semaine dernière, quand Victor était là, on a eu une réunion le vendredi soir, juste les pasteurs, Victor, Fred étaient là. Et c'était même samedi matin, pendant le GEM. C'était pendant le GEM. Victor disait, et ça m'a vraiment interpellé, la solution au problème de ce monde n'est pas dans les politiques. La solution au problème de ce monde n'est pas dans les institutions. La solution au problème de ce monde est chez les chrétiens. Amen. Est-ce que vous savez que vous êtes la solution? Est-ce que vous savez que vous êtes la solution? Allô? Est-ce que vous savez que vous êtes la solution? Est-ce que vous avez conscience de ça? On ne dirait pas. Dites-vous les uns aux autres, tu es la solution. Dites-le vous, Fred, tu es la solution. Amen. Amen. Tu es la solution. Gérard, tu es la solution, Gérard. Amen. Amen. Vous êtes la solution. Une seule solution, ce n'est pas la manifestation. Une seule solution, les chrétiens. C'est ça. Dieu va se glorifier dans vos vies. J'aime la ville dans laquelle je vis. J'aime la région dans laquelle je suis. C'est vrai que j'en aime une autre, mais j'aime profondément la région dans laquelle je suis. J'aime mon pays. Et j'aime cette planète. Mais rien ne va. Que ce soit sur cette planète, que ce soit sur mon pays, que ce soit dans ma région, que ce soit dans ma ville, rien ne va. Et alors, je vais blâmer mon maire pour lui dire « Monsieur le maire, vous ne faites pas un bon boulot ?» Je ne suis pas convaincu qu'il fasse un bon boulot, mais... Non, j'en suis pas convaincu, parce qu'il y a des choses qui fait qui sont très bien, mais il y a des choses qui fait que j'apprécie pas. Mais quoi qu'il en soit, on n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour être la solution. C'est pas des reproches que je dois lui faire, c'est lui apporter des moyens de changer les choses. Amen. Le phare est une solution pour l'île. Amen. Le phare, l'église de la réconciliation est une solution pour l'île. L'église baptiste de Waterloo est une solution pour Waterloo. La source est une solution pour Waterloo. Amen. Est-ce que vous prenez conscience de ça? Soit vous êtes déracheté, et semaine après semaine, vous vous repentez, vous hésitez même à prendre la Sainte Cène. Soit vous mettez toutes les chances de votre côté, vous obéissez à Dieu, et vous entrez dans la puissance à laquelle Dieu vous prédestine. Parce que vous avez à accomplir les choses que Dieu a préparées d'avance. D'avance. Amen. Alors j'aimerais juste ce matin qu'on puisse se sensibiliser à tous ces compromis qui sont dans notre vie. Toutes ces choses que l'on fait qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Peut-être même que toute ma vie n'est pas à la gloire de Dieu. Et dans ce cas-là, mais ma question c'est, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus ce matin? Parce qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est pas trop tard. La semaine dernière, 3 personnes l'ont fait. Et moi, je suis convaincu que Dieu change leur vie au jour le jour. Il ne les change pas parce que nous, on veut qu'ils changent. Il les change parce que Dieu veut qu'ils soient conformes à ce qu'il a préparé pour eux. Amen. Donc, si tu ne connais pas Dieu, ou si tu n'as pas encore fait la démarche, eh bien, avance-toi ce matin, on va prier pour toi. Mais si tu connais Dieu, tu connais aussi les faiblesses qu'il y a dans ta relation avec lui. Et dans ce cas-là, eh bien, je vais aussi vous demander de vous lever à votre place. On ne va pas chercher à savoir, ah ouais, lui c'est l'alcool, lui c'est ceci, lui c'est cela, lui c'est la vente d'armes, lui c'est la vente de... Non, on s'en fiche. On n'est pas là pour se juger. Nous avons tous des compromis. Moi-même, avant de faire ce partage, je me suis repositionné devant Dieu. Je lui ai encore demandé pardon parce qu'on a tous des compromis dans nos vies. On a tous des situations où on a pris peur. Mais ce matin, on a été encouragé par Sandy à avoir confiance. On a été encouragé par Fred à avoir confiance. Et moi, ce matin, j'aimerais qu'on soit encouragé simplement par le Saint-Esprit à faire confiance à notre Dieu. En toutes circonstances. À ne jamais, jamais, jamais nous laisser influencer par le monde. Amen. Alors, si tu es interpellé ce matin, ce n'est pas entre toi et les autres, c'est entre Dieu et toi. Mais lève-toi à ta place. On va prier ensemble. On va demander à Dieu qui nous donne la force de résister aux attraits du diable. On va demander à Dieu qui nous donne la force de dire non au compromis. On va demander à Dieu qui nous donne la puissance de résister même devant tout le monde. Amen. À ta place, lève-toi si tu veux maintenant. Qu'on puisse résister avec toi. Qu'on puisse être pour toi des Shadrach, des Meshach et des Abednego. qu'on puisse tous être les uns pour les autres, des modèles, des encouragements. Non pas de celles et ceux qui disent « Ah, tu as péché, c'est pas grave », mais de celles et ceux qui disent « Tu as péché, bien maintenant je vais prier pour toi pour que tu résistes. Tu es tombé, bien, ok, Dieu te pardonne, tu le sais. Je n'ai pas besoin de te le rappeler. Mais maintenant, je vais prier avec toi parce que je veux que tu résistes. Je veux que tu entres dans une autre dimension de la puissance de Dieu. Pas juste le pardon, la puissance de Dieu. Amen. Amen. La démarche est toute simple. C'est entre Dieu et toi. Alors, on va prier. Ce que je te demande, c'est juste de, non pas de culpabiliser, mais de repenser à ces compromis que tu as eus. Et de simplement dire à Dieu, plus jamais ça. Je veux entrer dans une nouvelle dimension. Maintenant, je veux pas juste connaître le Dieu qui pardonne, je veux connaître le Dieu puissant de la parole de Dieu. Amen. Je ne veux pas me contenter de la vie que j'avais. Je veux aller plus loin maintenant. Que ce matin, nous puissions marquer d'une pierre blanche ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Dieu de gloire, Père éternel, nous venons dans ta présence avec reconnaissance. Je sais, Père, que tu me pardonnes toujours. Je sais parce que chaque fois que je suis venu dans ta présence, tu m'as pardonné. À chaque fois que je me suis humilié devant toi, j'ai senti ton cœur de Père, ton amour qui me touchait et qui me pardonnait. Et à chaque fois, ça m'a fait du bien. Et à chaque fois, je me suis dit, bien, ça n'arrivera plus. Mais c'est revenu. Les tentations, le compromis. Père, ce matin, nous déposons tout ça devant ton trône de gloire. Ensemble, Seigneur, nous te demandons, Père, de prendre ça maintenant. Et non seulement nous le refusons, mais au nom de Jésus, nous ordonnons à toutes ces tentations, à tous ces compromis, nous leur ordonnons de partir loin de nous et nous refusons qu'ils reviennent. Seigneur, dans ta parole, tu dis, fuyez le diable. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Eh bien, Seigneur, nous voulons fuir ses tentations. Nous voulons lui résister. Au quotidien, nous voulons lui résister afin qu'il s'enfuit loin de nous, qu'il sache qu'il n'a pas de temps à perdre avec nous parce qu'il a déjà perdu. Seigneur, ce matin, nous prenons une position. Seigneur, le compromis, nous le balayons de notre vie. Seigneur, nous balayons ce compromis parce que nous voulons aller au-delà de juste être reconnaissants du pardon. Seigneur, nous voulons être reconnaissants pour la puissance que tu déverses en nous. Nous voulons vivre cette puissance. Je te demande, Père, au nom de Jésus, de ne pas permettre que nous passions notre temps à nous repentir, mais permets que nous puissions entrer dans cette puissance pour faire grandir ton royaume. Dieu de gloire, nous sommes la solution aux problèmes de cette planète. Seigneur, tu es notre Jésus. Tu es, toi, le seul qui convienne. Il n'y en a pas d'autre. Pas d'autre nom que le nom de Jésus pour sauver, pour libérer, pour guérir. Et Père, nous sommes reconnaissants parce que tu nous as donné ton Fils. Il nous a montré la puissance de Dieu. Il n'y avait pas de compromis dans sa vie. C'est un modèle pour nous. Je veux être comme mon Jésus. Je veux être comme mon Sauveur. Seigneur, je refuse le compromis dans ma vie maintenant. Je te demande, Seigneur, de me revêtir de ta puissance afin que je sois encouragé à résister aux tentations de Nebuchadnezzar, à résister aux tentations de ce monde. Père, au nom de Jésus, souffle sur ma vie. Ce matin, Seigneur, tu vois toutes celles et ceux qui se sont levés, non pas devant moi, non pas devant mon appel, devant ton esprit qui touche leur cœur. Seigneur, je te demande maintenant de marquer cette journée, afin, Seigneur, qu'un palier se mette sous leurs pieds. Afin, Seigneur, qu'ils ne tombent plus jamais en dessous de ce qu'ils vivent maintenant. Qu'ils aillent de gloire en gloire par la puissance de ton esprit. Seigneur, je te demande maintenant de nous donner la force de résister au diable. Seigneur, que nous n'ayons pas une vue à court terme. Que nous ne soyons pas focalisés sur ce que nous pourrions perdre.
mais que nous regardons à tout ce que nous allons gagner avec toi. Ô Dieu de gloire, manifeste ta puissance dans nos vies. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi. Seigneur, glorifie-toi. Glorifie-toi dans nos vies. Comme disait Victor, mes amis, si dans ce que vous faites, vous ne voyez pas la gloire de Dieu, c'est parce que vous ne faites pas ce que Dieu vous demande. Dans ce que vous faites, cherchez toujours à voir la gloire de Dieu. Toujours, toujours, toujours la gloire de Dieu. Père, je te remercie parce que ce matin, tu changes ma vie. Je te loue, je t'adore parce que ce matin, tu fais de moi un victorieux. Père, au nom de Jésus, glorifie-toi dans ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Amen.